RFI Radio France Internationale, 6h en temps universel, 7h à Paris.
RFI, édition spéciale.
Bonjour et bienvenue à tous. Où va la Tunisie? Quel parfum à la révolution de jasmin ce matin? Ben Ali, exilé en Arabie Saoudite, a-t-il montré le chemin à d'autres dirigeants du monde arabe? Nous allons poser toutes ces questions ce matin sur RFI à nos envoyés spéciaux à Tunis et à nos invités. Avec nous, des chercheurs et des acteurs de la vie politique tunisienne, opposants en exil qui vont rentrer au pays ou bien résistants de l'intérieur. Tous veulent esquisser le visage d'une nouvelle Tunisie plus libre, d'un monde arabe plus démocratique. Édition spéciale donc sur RFI jusqu'à 9h heure de Paris, avec d'abord le journal de Marie Dupin. Bonjour.
Bonjour à tous, et on commence donc bien sûr ce journal avec la situation en Tunisie. Des fusillades, des pillages et des règlements de compte dans la capitale tunisienne. Les scènes de violence se sont multipliées hier. Des tirs nourris ont été échangés pendant plus de 2 heures entre des francs-tireurs cachés dans des immeubles et les forces de sécurité. L'armée est très présente dans les rues de Tunis. Tunis, où nous retrouvons tout de suite en direct notre envoyé spécial Marie-Pierre Olfan. Bonjour Marie-Pierre.
Oui, bonjour Marie.
Alors après une journée de chaos hier, les Tunisiens se réveillent ce matin dans l'angoisse.
Oui, car il faut dire qu'ici les nuits sont courtes depuis 2-3 jours et les journées ne sont pas forcément très calmes non plus. Pour la première fois hier, c'est le cœur de la ville qui a été pris sous les tirs en plein après-midi. Des tirs qui n'ont cessé que grâce à la présence d'un hélicoptère de l'armée qui a tournoyé à très basse altitude. De sources policières, des hommes cachés dans des immeubles situés autour de l'avenue Bourguiba s'opposaient à des militaires associés à la police qui tentaient de les déloger. Les tirs ont été nourris et l'ordre a été donné aux hôtels environnants de fermer les fenêtres et surtout les rideaux des chambres pour ne pas être une cible. Les forces de l'ordre sont nerveuses, pas de doute là-dessus. Des Scandinaves à bord d'un taxi ont été durement frappés. Ils circulaient avec des fusils. C'était des chasseurs qui n'avaient peut-être pas choisi, il faut le dire, le bon moment pour se déplacer. Enfin, les quartiers sont toujours soumis à des opérations meurtrières menées par des hommes en armes et les habitants de la plupart de ces zones se sont maintenant organisés en comité d'autodéfense pour monter la garde.
Alors Marie-Pierre, plusieurs témoignages ont attribué ces violences contre les forces de sécurité à des militants proches de l'ancien président Ben Ali.
Oui, effectivement. On dit que ce sont des proches de l'ancien pouvoir, des hommes qui appartiennent au réseau policier parallèle mis en place par le président Ben Ali, qui font de la résistance. L'ex-chef de la sécurité, le général Ali Seriati, a d'ailleurs été arrêté à Ben Gardan, dans le sud, alors qu'il tentait de fuir en Libye. Il est soupçonné d'être responsable des récentes exactions commises contre la population. Une information judiciaire a été ouverte contre lui. Kaïs Ben Ali, un neveu de Zine El Abidine Ben Ali, a été interpellé, lui, par l'armée à Msaken, au centre de la Tunisie. Il se trouvait alors avec 10 autres personnes qui tiraient dans tous les sens à bord de véhicules de police pour semer la panique. Et puis il y a surtout ces témoignages de nombreux habitants qui racontent avoir vu des hommes en civil tirer dans leur quartier à bord de véhicules de police ou même d'ambulances voler pour commettre leur forfait. Des hommes qui, lorsqu'ils sont arrêtés, selon un colonel de l'armée, disent être en mission commandée.
Marie-Pierre Olfan, notre envoyée spéciale en Tunisie que nous retrouverons tout au long de la matinée. J'ajoute que l'ambassadeur démissionnaire de la Tunisie à l'UNESCO, Mezri Haddad, accuse l'ancien président Ben Ali d'avoir prémédité l'anarchie avant son départ. Sur le plan politique maintenant, le Premier ministre Mohamed Ranouchi assure que les autorités ne feront preuve d'aucune tolérance envers ceux qui sèment le chaos dans le pays. Et c'est dans ce contexte qu'il doit écrire une nouvelle page de l'histoire politique du pays. Mohamed Ranouchi a consulté hier des représentants des différents partis pour amorcer le processus de transition. La composition du nouveau gouvernement d'Union nationale pourrait être annoncée aujourd'hui et les partis proches de l'ancien président devraient en être exclus. Pendant ce temps, Ben Ali est toujours en Arabie Saoudite, mais a-t-il l'intention d'y rester? Il pourrait envisager de se rendre en Libye à l'invitation du colonel Kadhafi. Les explications à Riyad de notre correspondante Clarence Rodriguez.
Ben Ali et le colonel Kadhafi se sont longuement entretenus au téléphone le week-end dernier. Selon nos sources, la Libye pourrait être la prochaine terre d'exil des Ben Ali, sachant que le président tunisien déchu a atterri en Arabie Saoudite dans des conditions pour le moins précipitées. En l'accueillant dans l'ancien palais du roi, Faisal, à Jeddah, transformé pour la circonstance en véritable forteresse, le prince Naïef, ministre saoudien de l'intérieur, laisse le temps à son ami tunisien de se poser et de réfléchir à son avenir, et notamment à sa future destination. Si par tradition l'Arabie Saoudite, terre sainte, se doit d'accueillir tous les musulmans, y compris les dictateurs, Ben Ali n'envisagerait pas forcément de rester à durée indéterminée ici. On l'aura compris, Jeddah, ou plus précisément le quartier résidentiel d'Al-Hamra, ne serait donc qu'une étape. poussé à l'exil. Ben Ali, qui a été lâché par la France et probablement par d'autres pays, compte à ce jour sur le soutien indéfectible du colonel Kadhafi. Le dirigeant libyen regrette son départ pour lui. Ben Ali est toujours président de la Tunisie. Clarence Rodriguez, Riyad, RFI.
Enfin, en ce qui concerne les touristes en vacances en Tunisie, ils ont pour la plupart pu quitter le pays hier. Côté français, les agences de voyage auraient rapatrié les deux tiers de leurs 8000 clients. Les autres devraient être de retour aujourd'hui. Une réunion d'agences de voyage doit avoir lieu donc aujourd'hui pour décider d'une éventuelle reprise des départs vers la fin de la semaine.
Ben Ali, et après, à quoi ressemblera cette nouvelle Tunisie qui se dessine depuis quelques jours? Le monde arabe est-il le même après la chute du dictateur Ben Ali? Édition spéciale sur RFI jusqu'à 9h, heure de Paris. Mais tout d'abord, le reste de l'actualité dans le monde, avec vous Marie Dupin.
Et avec la Côte d'Ivoire, où l'Union africaine devrait entamer une nouvelle tentative de règlement de la crise politique, le médiateur de l'Union africaine, le premier ministre kényan Raila Odinga, devrait arriver normalement aujourd'hui à Abidjan. Il s'est entretenu hier avec le président nigérian Goodluck Jonathan, le président de la CDAO. Au Niger, Mamadou Tandja vient de passer sa première nuit en prison. L'ancien chef d'État, renversé en février 2010, était jusqu'à présent en résidence surveillée dans une villa dans l'enceinte de la présidence. Il a été transféré hier à la prison civile de Kolo, près de Niamey. Cette incarcération survient tout juste 2 semaines avant l'élection présidentielle du 31 janvier, destinée à clore la transition organisée par la junte militaire qui avait mis fin justement au règne de Mamadou Tandja, accusé aujourd'hui de malversation financière. Lincel, petite ville du nord de la France commune, en deuil après le décès d'Antoine de Léaucourt et de Vincent Delory lors d'une opération militaire française au Mali après leur enlèvement à Niamey au Niger. Aujourd'hui, les funérailles des deux jeunes hommes doivent avoir lieu donc à Lincel en présence de Nicolas Sarkozy. Et hier, une marche silencieuse a eu lieu dans la commune en leur mémoire. Près de 2000 personnes s'étaient déplacées, y compris des hommes et des femmes qui ne connaissaient pas les deux jeunes hommes. C'est le cas de cette habitante d'une commune proche de Lincel et qui est venue soutenir la famille et les amis de Vincent et d'Antoine.
C'est trop injuste, beaucoup trop injuste. Nous n'habitons pas Lincel, nous sommes à côté, nous habitons en commune et puis je suis venue parce que j'aurais pas pu rester chez moi en sachant qu'il y avait une marche aujourd'hui pour soutenir les parents, pour soutenir la famille. J'aurais pas pu, ça aurait totalement été injuste de ma part de rester chez moi, de pas être là présent à côté d'eux.
Des propos recueillis par Nenad Tomic. Les funérailles d'Antoine de Léaucourt et de Vincent Delory doivent donc avoir lieu aujourd'hui à 15h. La stupeur des Haïtiens, la colère ou la joie, les réactions ont été extrêmement diverses. Mais en tout cas, l'information ne laisse personne indifférent. L'ex-chef d'État haïtien, considéré par beaucoup comme un dictateur, Jean-Claude Duvalier, dit Bébé Doc, est arrivé en Haïti hier après 25 ans passés en exil en France. En 1971, âgé de seulement 19 ans, il avait succédé à son père François Duvalier, ou Papa Doc. Bébé Doc avait ensuite été chassé du pouvoir par une révolte populaire en 1986. On retrouve à Port-au-Prince notre envoyé spécial Valérie Roard. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Et donc ce matin, le sentiment qui domine en Haïti, c'est clairement un sentiment de surprise.
Oui, la rumeur, le secret avait été bien gardé. La rumeur de son retour au pays n'a commencé à circuler que lorsqu'il était déjà dans l'avion entre Pointe-à-Pitre et Port-au-Prince. Même ceux qui étaient encore en contact avec l'ancien dictateur n'ont été mis au courant de son retour qu'à la toute dernière minute. Immédiatement, de nombreux jeunes ont accouru à l'aéroport pour tenter de voir cet ancien président qu'ils ne connaissent que de réputation. Ils savent bien sûr qu'il était considéré comme un dictateur, mais la plupart de ceux qui sont venus l'acclamer estiment qu'à tout prendre, dans le contexte politique actuel, c'est finalement le meilleur. Bien sûr, les Haïtiens ont le souvenir des tontons Makout, la milice sanguinaire des Duvaliers, mais ils font une distinction entre le père très répressif et le fils, parvenu au pouvoir à 19 ans et un peu plus progressiste. Sous Baby Doc, on n'avait pas faim. Sous Baby Doc, l'éducation était meilleure. C'était ce que l'on pouvait entendre ce soir devant les grilles de l'aéroport, alors que Jean-Claude Duvalier se trouvait encore à l'intérieur.
En tout cas, Valérie, on peut dire que Jean-Claude Duvalier a bien choisi son moment pour ce retour surprise.
Je suis venu pour aider, a dit Jean-Claude Duvalier à son arrivée. C'est un citoyen comme un autre. Il a le droit de rentrer au pays, a aussi expliqué le Premier ministre Jean-Max Bellerive, qui a tout de suite ajouté qu'il espérait que ce retour ne compliquerait pas une situation politique déjà très complexe. En effet, si Baby Doc voulait bouleverser le jeu politique, il ne pouvait pas choisir de meilleure date. Le second tour de l'élection présidentielle aurait dû se dérouler ce dimanche 16 janvier. Aurait dû, puisqu'on attend toujours le résultat officiel du premier tour. Entre Jude Célestin, le candidat du pouvoir, et Michel Martelly, le très populaire chanteur de Compass, c'est toujours l'incertitude pour savoir qui ira affronter Mirlande Maniga au second tour. Les experts de l'OEA estiment, après recomptage, que ce doit être Michel Martelly. Mais le président René Préval ne semble pas pressé de lâcher son poulain, Jude Célestin. Au-delà de ce cafouillage électoral, le problème pour de nombreux Haïtiens, c'est qu'ils ont été obligés de choisir un candidat plutôt par défaut que par réelle conviction. Alors dans ce contexte, l'ère Duvalier apparaît comme une période plutôt prospère où la population était moins pauvre, mieux éduquée, pendant laquelle surtout il n'y avait pas eu de tremblement de terre.
Valérie Roard, envoyée spéciale de RFI en direct de Haïti. En France, elle a été consacrée hier à la tête du Front National. Marine Le Pen a succédé officiellement à son père Jean-Marie Le Pen. Elle a remporté plus de 2/3 des voix lors de consultations internes au parti. Dans son discours, Marine Le Pen s'est fait l'apôtre d'un parti défenseur d'un État fort, laïque et républicain, chargé de défendre les Français contre l'islamisation et le règne de l'argent roi. C'est une information du journal Le Figaro. Le président du groupe pharmaceutique Servier serait cité à comparaître par la justice dans l'affaire du Mediator le 11 février prochain devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Il y a quelques jours, l'association des victimes du Mediator avait déposé 116 plaintes au parquet de Paris pour homicide et blessures involontaires. Et ce week-end, le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, a dénoncé la responsabilité directe de Jacques Servier, fabricant du médicament et accusé d'avoir causé la mort de 500 à 2000 personnes. Enfin, du football, avec la 20e journée de Ligue 1, Marseille s'est imposé hier soir au Vélodrome face à Bordeaux, 2-1 en clôture de cette 20e journée. Marseille qui reste 5e d'un classement, toujours aussi serré et toujours dominé par Lille, avec un point d'avance sur un trio inchangé, Paris Saint-Germain, Rennes et Lyon.
C'était le journal de Marie Dupin, il est 7h12 à Paris.
Édition spéciale sur RFI.
Sébastien Gédor, Christophe Boisbouvier.
Jusqu'à 9h, heure de Paris, nous allons dessiner le visage d'une nouvelle Tunisie et peut-être d'un nouveau monde arabe. Le régime Ben Ali est tombé comme un fruit que personne n'imaginait si mûr. Mais qui va remplacer ce système policier? Un gouvernement d'union nationale se dessine en attendant les élections. Pour le moment et après pas mal de tergiversations, c'est le président du Parlement, Foued Mebaza, qui assure la transition. Christophe Boisbouvier et nos invités s'installent, mais on va commencer par planter le décor en vivant ces quelques heures où tout s'est accéléré.
Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Nous irons en Tunisie où l'histoire est en marche. Le président Ben Ali a quitté le pouvoir et probablement le pays.
La situation sur place évolue d'heure en heure. Le président Ben Ali a quitté ce soir le pays.
Après son départ précipité de Tunis hier soir, Ben Ali et sa famille sont arrivés tôt cette nuit à Jeddah où ils ont été accueillis par les autorités saoudiennes.
On entendait des coups de feu répétés à partir de minuit jusqu'à 2h30, 3h du matin.
Je n'arrive pas à parler, je suis excédée. On a très peu dormi. On était à bout de nerfs, on avait peur, peur du chaos, peur de ces milices qui pillent.
Hier soir, tous les hommes du quartier se sont organisés, ont monté la garde.
Les prochaines jours ne sont pas claires, malheureusement. Maintenant, on a besoin de quoi? On a besoin d'une bonne économie, d'une bonne société, des libertés publiques, d'une transparence dans les relations entre les citoyens.
Puisque la bonne marche de l'autorité publique constitutionnelle et la continuité de l'État exigent la constitution d'un gouvernement, et puisque l'intérêt supérieur de l'État exige que cela soit un gouvernement d'unité nationale, j'ai chargé M. Mohamed Ghannouchi, Premier ministre, de me proposer les noms des membres de ce futur gouvernement, comme le stipule l'article 50 de la Constitution.
«
quelques heures où tout a changé en Tunisie. Un résumé sonore signé Sonia Rollet. Bonjour Christophe Boisbouvier.
Oui, bonjour Sébastien.
Et bonjour à nos invités Vincent Gesser, chargé de recherche au CNRS, et Ali Remam, l'Institut de recherche sur le monde arabe et musulman à Aix-en-Provence. Bonjour. Vous êtes auteur du Syndrome autoritaire. C'est paru aux presses de Sciences Po et vous avez travaillé pendant 4 ans également à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain de Tunis.
Et puis un dernier livre avec Monsef Marzouki qui s'appelle Dictateur en sursis. Vous voyez que le titre était prénominatoire.
Nous sommes également en ligne avec Mustapha Ben Jaffar qui a tenté de faire vivre un semblant d'opposition politique au régime Ben Ali, président du Forum démocratique du travail et des libertés. Bonjour Mustapha Ben Jaffar.
Bonjour.
Avec nous également en ligne de Tunis, Maître Radia Nasraoui. Bonjour.
Bonjour.
Opposante, inlassable, traquée, fichée par la police politique. Merci d'être en ligne avec nous de Tunis. D'abord, Vincent Gesser, est-ce qu'on sait comment va se dérouler la transition ce matin? Le président du Parlement est donc président par intérim, mais comment ça va s'organiser, un gouvernement d'union nationale?
Je dirais qu'on est dans un processus de transition classique, certes qui va décevoir certains opposants qui ne seront pas directement conviés, mais il faut bien dire que nous sommes dans un gouvernement transitoire. C'est-à-dire que les personnes qui seront appelées à siéger dans ce gouvernement ne seront pas forcément celles qui seront élues dans le futur Parlement et peut-être pas celles qui siégeront dans le futur gouvernement qui procédera d'élections démocratiques. Donc c'est vrai que certains peuvent être frustrés, déçus, mais malheureusement les transitions sont toujours très complexes. On l'a vu avec l'Espagne franquiste, le Portugal de Salazar et aussi le Chili de Pinochet. Il y a toujours des éléments d'anciens régimes qui restent. Pas forcément très longtemps, mais là ils sont encore présents et que je dirais que c'est inévitable, même si malheureusement ça peut décevoir ceux qui ont porté les révoltes et qui ne seront pas forcément bien représentés dans ce futur gouvernement pour l'instant.
Docteur Ben Jaffar, vous êtes le secrétaire général du Forum démocratique pour le travail et les libertés. Alors on rappelle, dès 70, vous avez claqué la porte du parti au pouvoir, le néo-destour, vous êtes un des leaders de l'opposition. En 2009, vous étiez candidat à la présidentielle. Malheureusement, votre candidature a été invalidée. Et aujourd'hui, donc, avec Etajdid et le PDP, est-ce que vous vous apprêtez à rentrer dans un gouvernement d'union nationale?
Oui, c'est en cours de construction. Bonjour Vincent, bonjour, bonjour. Radia. Oui, c'est une opération qui est en cours. Et les résultats de nos consultations vont être annoncés en fin de matinée aujourd'hui en principe.
À quelles conditions acceptez-vous d'entrer dans ce gouvernement?
C'est très très simple. La première chose, c'est que la Tunisie retrouve une situation apaisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des problèmes très 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 sérieux de sécurité intérieure, de sécurité extérieure. Il y a des menaces réelles. Hier, il y a eu une véritable bataille au niveau du palais présidentiel parce que toute une brigade de l'ancienne garde s'y est réfugiée et a résisté pendant toute la nuit. Des bandes armées sillonnent le pays pour semer la terreur dans le pays. Évidemment, nous savons très très bien, même si nous n'avons pas encore, nous, accès aux données, aux éléments, et que les services s'en occupent et que la justice va dire son mot, nous savons que ça n'est pas possible d'organiser une telle chose sans qu'il y ait de véritables mains, des têtes qui sont derrière tout cela.
Donc vous demandez des mesures contre les membres de l'ancien régime, c'est ça?
Non, je vous dis qu'aujourd'hui, le pays vit une situation d'insécurité. Ça, c'est le premier point. Il faut absolument ramener la paix au pays. La deuxième chose, il faut absolument, et ça, c'est un objectif vital pour nous, parce que moi, j'ai vécu l'expérience de 1987, où il y a eu de très, très belles promesses, et où il y a eu, par la suite, au bout d'un certain temps, un retour sur tout ce qui a été promis, et nous avons vécu 22 ans d'enfer. Et ça, nous ferons tout pour que cela n'ait pas lieu, et nous dénoncerons le moindre dérapage dans ce sens-là.
87, c'est l'année où Habib Bourguiba a été déposé par le président Ben Ali. Ça avait suscité des espoirs, mais tout le monde a déchanté ensuite, Christophe.
Où on a eu une déclaration idéale de principe qui annonçait plus de présidence à vie, plus de répression, la Tunisie est mûre, et ainsi de suite.
Alors docteur, on va écouter Maître Radia Nasraoui. Maître, vous êtes l'une des grandes figures de la lutte pour les droits de l'homme en Tunisie. Tunisie. Vous présidez l'association de lutte contre la torture en Tunisie. Aujourd'hui, on va donc vers ce gouvernement d'union nationale. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ?
Pas du tout. C'est négatif. Et on voit déjà des réactions un peu partout de Tunisiens et de Tunisiennes qui vous disent que là, c'est le régime de Ben Ali, forme Ben Ali. Ghannouchi, c'est le premier ministre de Ben Ali pendant des années. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un homme de Ben Ali. Des gens qui sont aussi responsables que Ben Ali de cette politique répressive que nous avons subie pendant deux décennies. Pour les Tunisiens, ce n'est pas un gouvernement d'unité nationale, c'est un gouvernement de Ghannouchi, de Ben Ali, élargi à quelques personnalités de l'opposition légale.
Dans le même temps, Radia Nasraoui, comme le disait Vincent Gesser, il faut bien que cette transition s'organise et ça prendra forcément du temps.
Pas du tout. Les Tunisiens ont d'autres propositions. Les Tunisiens appellent à quitter un gouvernement provisoire qui aura pour tâche principale et première d'organiser des élections pour une assemblée constituante. Les gens ont besoin d'une nouvelle constitution. Toutes les décisions qui vont être prises là vont être votées par un parlement qui a été imposé par Ben Ali. C'est des institutions qui n'ont aucune légitimité. Les Tunisiens ont appelé au départ de Ben Ali, mais également à ce que son régime soit détruit, que tous les hommes de Ben Ali quittent, que toutes les institutions de Ben Ali dissoutent. On ne peut pas construire une démocratie avec les hommes de Ben Ali et les institutions de Ben Ali.
Maître Nasraoui, on va laisser répondre Mustapha Ben Jaffar. Mustapha Ben Jaffar, donc vous qui avez été un opposant à Ben Ali également, mais avec un parti légal, même si votre dernière candidature à la présidentielle a été invalidée. Est-ce que du passé, il faut faire totalement table rase, comme le dit Maître Nasraoui ?
C'est une divergence très très constante avec tous ceux et celles qui pensent comme Radia. J'ai toujours salué le combat et elle sait très très bien toute la solidarité que nous avons exprimée au cours des 20 dernières années, mais même davantage. La question aujourd'hui, elle se pose en termes d'une part pratique et en termes d'intérêt national pour le pays. Je dis qu'il y a des priorités. Tout le monde sait que Vincent vient de le rappeler, que les transitions peuvent se faire soit d'une manière brutale. Nous ne sommes pas dans ce cas-là, c'est-à-dire un coup d'État, quelqu'un qui vient, qui s'installe avec des tanks ou avec d'autres moyens. Il y a d'autres moyens, bien entendu. Il balaye tout et il fait du neuf. Je ne sais pas quel est le prix, je ne sais pas comment cela prendra comme temps, et je ne sais pas si une telle solution... Moi, je pense le contraire, bien entendu. Cette solution n'est pas du tout adaptée ni au profil de la Tunisie, ni à la structure sociale du pays. Une chose est sûre, c'est que, au terme d'une accumulation, j'entends très très souvent à la radio dire « en quelques jours, en quelques heures, les choses ont basculé ». En fait, les choses ont basculé au terme d'une accumulation à laquelle ont participé beaucoup de militants comme Radia, comme Hama, comme d'autres.
Oui, mais docteur, la crainte qu'exprime Radia Nasraoui, c'est que ce soit un régime Ben Ali sans Ben Ali, comme elle le dit, c'est-à-dire que vous soyez noyauté par les partisans de Ben Ali.
Ça, c'est un mépris total et de notre intelligence et de tous nos sacrifices qui ont été faits pendant plus de 30 ou 40 ans.
Oui, mais elle craint qu'il reste encore des forces suffisamment prégnantes pour ça.
Nous partageons la même crainte. Je vous ai dit, moi, j'ai vécu l'expérience de 87 et je sais effectivement que au bout d'un certain temps, l'ancien parti a repris du poil de la bête et a repris les choses en main, et nous avons vécu une situation difficile. Je partage ces craintes, j'appelle à la vigilance, mais je dis que le génie tunisien, et maintenant nous sommes à l'intérieur, en 87, ça n'a pas été le cas, tout le monde est resté à l'extérieur, et on a attendu un miracle. Aujourd'hui, c'est une autre formule qui est mise en place et j'appelle toutes les consciences à être vigilantes, y compris à propos de notre comportement à nous. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des militants, mais des gens qui nous connaissent depuis des années savent exactement quel est le niveau de notre prise de conscience, de notre moralité et de notre éthique. Il faut nous faire confiance et faire confiance à cette solution pacifique qui fait partie du génie tunisien.
On va voir, Mustapha Ben Jaffar, comment effectivement la transition s'organise. Ce qu'on peut dire ce matin, en tout cas, c'est que tout le monde dans la rue à Tunis se demande de quoi l'avenir sera fait, comme cet homme qui a rencontré l'une de nos envoyées spéciales.
Les prochaines jours ne sont pas claires, malheureusement. Parce que ceux qui ont fait la révolution ne participent pas actuellement. Il y a un gâteau, il y a une nouvelle gâteau. Et tout le monde veut la partager. Et il faut voir si l'armée elle est capable de tenir la situation. Parce que les choses ne sont pas encore claires. Et il y a beaucoup de marchandages entre les diverses forces, entre la garde nationale, entre l'armée, entre le parti au pouvoir, entre les soi-disant oppositions. Et il faut attendre ce gouvernement. Qu'est-ce qu'il va donner? Qui va être représenté dans ce gouvernement? Tout le monde veut sa part. Ranouchi va rentrer et prendre sa part. La gauche veut prendre sa part. Les PSD, les Dissouriens, ils veulent rester dans le pouvoir. Parce que pour eux, la Tunisie, c'est le seul leur parti. C'est des gens qui traitent les Tunisiens comme on a dit leur sujet. Nous, maintenant, on a besoin de quoi? On a besoin d'une bonne économie, d'une bonne société, des libertés publiques, d'une transparence dans l'économie, d'une transparence dans les relations entre les citoyens et les institutions.
Vincent Gesser, est-ce que le système tunisien peut s'ouvrir avec ce gouvernement d'union nationale ou bien est-ce qu'il faut en changer totalement?
Écoutez, moi je veux pas être optimiste et faussement optimiste. Je comprends tout à fait les critiques de Radia Nasraoui qui veut que ce mouvement social et protestataire puisse aussi déboucher sur un changement. Mais je crois qu'on peut pas forcément dire que le régime de Ben Ali va perdurer. Je donnerai plusieurs signes. Ben Ali est parti. La composante mafieuse est partie. Le parti au pouvoir, je pense, n'est pas complètement déstructuré, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse aujourd'hui s'imposer. On est quand même vers une transition de régime. Alors oui, bien sûr, il faut être vigilant pour ce que tous ceux qui ont porté ce mouvement puissent avoir une certaine représentation, parce que sinon on va vers des mouvements sociaux dans 6 ou 7 mois. Hein, et donc ça, il n'y aurait pas de solution à la crise. Mais de là à dire que le régime pourrait renaître parce que les opposants seraient en quelque sorte trompés par un certain compromis, je ne crois pas. D'autre part, quoi qu'on pense de Mohamed Ranouchi, ce premier ministre qui a servi Ben Ali pendant des années, plus de 10 ans, malgré tout, il est en position d'extrême faiblesse. Je veux dire par là que il n'est pas en position de recréer les conditions d'une hégémonie de ce qui serait un nouveau parti RCD sous sa férule. Mais je suis pas sûr qu'il en ait la volonté. C'est un technicien. C'était plus un haut fonctionnaire qu'un véritable homme politique. C'est malheureusement les complexités de la réalité tunisienne. C'est-à-dire que les ministres n'avaient véritablement aucun poids politique, sauf quelques corrompus proches de Ben Ali.
On va repasser la parole à nos invités en ligne de Tunis.
Oui, Christophe. Maître Nasraoui, vous nous entendez à nouveau?
Oui, j'entends à nouveau, oui.
Maître, est-ce que le plus important, ce n'est pas tout de même, au-delà de cette controverse sur le gouvernement d'union nationale, c'est pas qu'il y ait des élections libres dans 2 mois?
Pardon, j'ai pas
entendu. Est-ce que le plus important n'est pas que dans 2 mois, il y ait des élections libres?
Écoutez, si ces élections vont avoir lieu alors que le RCD, le parti de Ben Ali, est toujours là, les ministres de Ben Ali, l'ancienne constitution, la constitution de Ben Ali est toujours là, je ne suis pas du tout d'accord que ces élections peuvent être libres.
Mais Maître Nasraoui, a priori, les partis proches de Ben Ali devraient être exclus du gouvernement d'Union nationale et ça devrait vous rassurer.
Ça ne me rassure pas du tout, ça ne rassure pas les Tunisiens qui ont participé à ce mouvement extraordinaire. Tous ceux qui ont participé aux manifestations, tous ceux qui ont appelé au départ de Ben Ali ne sont pas du tout contents. Ils veulent la rupture pure et simple avec le régime de Ben Ali, avec les hommes de Ben Ali. Nous voulons une nouvelle constitution, une constitution démocratique. Les libertés, les droits, des élections démocratiques, une justice indépendante. Or, tout cela n'est pas possible actuellement. Je me demande prétendre qu'il peut y avoir...
Radia Nasraoui, la ligne n'est pas bonne. On va laisser un dernier mot de conclusion à Mustapha Ben Jaffar. Sur ce gouvernement d'union nationale.
Et sur cette nouvelle constitution que souhaite le maître Menasraoui, docteur Benjafar.
En quelques mots.
Oui, oui, en très très peu de mots, je me pose des questions. Comment Radia parle de, au nom de tous ces Tunisiens et que les trois chefs des partis d'opposition qui sont là depuis au moins 22-23 ans et qui militent et qui résistent sont des personnalités politiques. Pour aller plus vite et au fond des choses, effectivement, le projet de ce nouveau gouvernement avec à côté de lui un conseil national pour la réforme présidé par une très importante personnalité indépendante.
Ça pourrait vous rassurer, on a bien compris. Merci Mustapha Benjafar, du président du Forum démocratique pour le travail et les libertés, et merci également à Maître Nasraoui de l'association de lutte contre la torture en Tunisie. Il est 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI, édition spéciale.
Depuis 7h et jusqu'à 9h, heure de Paris sur RFI, édition spéciale sur l'avenir de la Tunisie et sur le nouveau visage du monde arabe après la révolution qui a emporté Ben Ali au pouvoir depuis 23 ans. Fuite et fin, titre ce matin l'hebdomadaire Jeune Afrique. Tout est à réinventer. On a abordé la question du gouvernement d'union nationale il y a quelques instants et on a vu qu'il y avait encore beaucoup de divergences entre les composantes de l'opposition tunisienne. Après le journal, on verra le rôle que peuvent jouer les islamistes en Tunisie, épouvantail commode pour Ben Ali ou menace pour la liberté naissante. Rendez-vous avec d'autres invités juste après votre journal. Nicolas Sûr, bonjour.
Bonjour. L'actualité de ce lundi 17 janvier est bien sûr dominée par la situation en Tunisie où nous retrouvons notre envoyé spécial Marie-Pierre Olfan. Marie-Pierre, actualité politique chargée en perspective ce lundi à Tunis. On en débattait à l'instant même. Le Premier ministre Mohamed Ranouchi devrait annoncer la composition du nouveau gouvernement.
Oui, il a promis un gouvernement d'unité nationale et de transition. Gouvernement express formé donc en quelques heures s'il est effectivement annoncé. Aujourd'hui, on devrait y retrouver les trois partis d'opposition reconnus par le régime Ben Ali. Le mouvement Etajdid, le parti démocratique progressiste et le Front démocratique pour le travail et les libertés. Les partis de l'ancienne majorité devraient être écartés, tout comme les formations politiques non reconnues. Elles n'ont en tout cas pas été sollicitées par le Premier ministre. D'après ceux qui ont participé aux consultations hier, Mohamed Ranouchi devrait garder le ministre de l'Intérieur, nommé il y a quelques jours à peine, et celui des Affaires étrangères. Il faut s'attendre à voir arriver, et c'est inédit, des personnalités indépendantes de la société civile. L'Union Générale Tunisienne du Travail, des avocats, des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme ont en tout cas été consultés. Un gouvernement donc qui cherche, semble-t-il, en tout cas à intégrer de nombreux acteurs qui se sont mobilisés ces dernières semaines dans le mouvement social.
Marie-Pierre Olfan, on a suivi vos reportage. La journée d'hier a été maillée de violence jusque dans le centre de Tunis. Comment la nuit s'est-elle passée ?
Écoutez, ici au centre, la nuit a été calme. Les tirs ont cessé en fin de journée hier, mais l'hélicoptère de l'armée a continué à tournoyer une bonne partie de la soirée et l'avenue Bourguiba a été totalement bouclée, impossible de la traverser pour des raisons de sécurité. L'après-midi, vous l'avez dit, avait été très tendu avec pour la première fois des tirs nourris pendant plus de 2 heures dans la zone du ministère de l'Intérieur. De sources policières, des hommes cachés dans des immeubles situés autour de l'avenue Bourguiba s'opposaient à des militaires associés à la police qui tentaient de les déloger. Des affrontements qui illustrent les tentatives de désarmement de ce qu'on appelle ici les miliciens proches de l'ancien pouvoir et qui font de la résistance. Donc, nuit calme ici au centre-ville, mais il est trop tôt, Nicolas, pour vous donner des nouvelles de ce qui a pu se passer peut-être dans les quartiers huppés et les banlieues populaires de la capitale.
Marie-Pierre Olfan, direct de Tunis. Nous vous retrouvons tout au long de la matinée sur RFI. Le clan Ben Ali, vous le disiez, est pointé du doigt dans ces violences. L'ancien chef de la sécurité du président destitué a d'ailleurs été arrêté. Le général Ali Seriati est accusé d'être responsable des pillages et des exactions commises contre la population. Arrêté également un neveu de l'ancien président. Kaïs Ben Ali a été interpellé à Msaken, dans le centre de la Tunisie, avec 10 personnes qui se trouvaient dans des voitures de la police. Il tirait dans toutes les directions. Hier, l'ambassadeur des missionnaires de la Tunisie à l'UNESCO, Mezri Haddad, a accusé carrément l'ancien président Ben Ali d'avoir lui-même prémédité l'anarchie avant son départ et de téléguider les opérations. La révolution tunisienne a surpris dans ce pays des milliers de vacanciers, on le sait. Les agences de voyage hier ont commencé à rapatrier les touristes coincés sur place. Il est conseillé à ceux qui devraient partir d'attendre un peu. Mais les professionnels du secteur envisagent une reprise des départs dès le week-end prochain à Paris. Les responsables d'agences de voyage ont rendez-vous aujourd'hui pour en discuter. François-Xavier Debouard, co-président des agences Selectour et AFA de Voyage.
Nous avons une réunion avec les principaux tour opérateurs au travers de l'association de CETO et nous déterminerons si on maintient les départs pour le week-end prochain. Bien entendu, nous ne prenons et faisons prendre aucun risque pour nos clients. Donc c'est en fonction de leur desiderata et ceux qui ne voudraient pas partir, nous les assurons d'avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle un report à une date ultérieure qui pourrait leur convenir.
Est-ce que vous enregistrez dès à présent des désistements, des désinscriptions ?
Pour l'instant, non. Des questions, ça c'est évident. Mais pour l'instant, les gens attendent et pensent que peut-être le calme va quand même reprendre et permettre de pouvoir partir.
Propos recueillis par Francine Quentin. Point de départ des événements en Tunisie. L'immolation par le feu il y a un mois d'un jeune vendeur de fruits et de légumes tracassé par la police. Un acte de désespoir qui de toute évidence fait des émules au Maghreb. Un père de famille algérien s'était aspergé d'essence samedi et enflammé à Bourhadra non loin de la frontière tunisienne. On a appris hier qu'il avait succombé à ses blessures et le quotidien d'Alger El Watan rapporte que 3 autres tentatives de suicide par immolation a été enregistrée en Algérie depuis mercredi dernier.
La révolte tunisienne, un mélange de révolte sociale et d'exigence démocratique, peut-elle s'étendre au monde arabe ? C'est l'une des questions que l'on pose ce matin sur RFI dans cette édition spéciale jusqu'à 9h, heure de Paris. Le reste de l'actualité en plus bref, Nicolas.
Il a, dit-on, embrassé le sol quand il est descendu de l'avion. Jean-Claude Duvalier, baby doc, est rentré en Haïti. Il atterrit à Port-au-Prince ce dimanche en fin d'après-midi à bord d'un vol d'Air France en provenance de Paris, où il vivait en exil depuis 25 ans. Ancien président à vie de Haïti, il avait été chassé du pouvoir par la révolte populaire. Jean-Claude Duvalier a le droit de rentrer chez lui, a déclaré le Premier ministre Jean-Max Bellerive. C'est également ce que pense René Louis, qu'a rencontré ce matin à Port-au-Prince notre envoyé spécial, Valérie Rohr.
Bon, j'ai pas de problème, parce que normalement, il y a toute une turbulence dans notre pays. Il y a tout un désordre qui est en train de se faire. Après 25 ans qu'il est parti, rien n'est fait. Absolument rien n'est fait. Le peuple est aux abois. Il n'y a absolument rien. Le peuple n'a rien. On n'a aucun espoir. On n'a aucune espérance. S'il est rentré, on n'a pas de problème.
Aristide pourrait rentrer aussi ?
Mais oui. Tout le monde peut rentrer dans son pays. Parce que notre pays, si je crois bien comprendre, a beaucoup de problèmes. Quiconque peut rentrer dans son pays parce que c'est le pays de tout le monde. C'est le pays d'Aristide, c'est le pays de Jean-Claude Duvalier, c'est le pays de tous les exilés, si je crois bien comprendre.
Mais pourquoi vous l'avez mis dehors en 86, Duvalier, puis Aristide bon, aussi dehors bon, et vous bon, leur bon, ouvrez
bon,
les bras
bon,
maintenant
bon, 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 bon. On ne savait pas que Jean-Claude Duvalier, on ne savait pas qu'il était bon. On ne savait pas que ça allait comme on peut le constater maintenant. Aujourd'hui, s'il est rentré dans son pays, il est le fils du pays, qu'il rentre.
René Louis, au micro de Valérie Rohr. Jean-Claude Duvalier déclare qu'il est venu aider Haïti. Il rentre au pays en pleine crise politique. Le deuxième tour de la présidentielle qui devait être organisé hier dimanche a été repoussé sine die. Son nom a été cité dans plusieurs affaires de détournement de fonds publics. L'ancien président nigérien Mamadou Tanja a été transféré hier dans une prison au sud de Niamey. Depuis le coup d'état de février 2010, il était assigné à résidence dans une villa de l'enceinte du palais présidentiel, à Niamey, Moussa Kaka.
L'ancien président de la République, Tanja Mamadou, vient de passer sa première nuit à la prison civile de Kolo, à une trentaine de kilomètres de Niamey. Ce transfert à la prison de Kolo n'a pas surpris les Nigériens. En effet, son nom a été cité dans plusieurs affaires de détournement des deniers publics. La dernière en date est celle de la société nigérienne des produits pétroliers, la SONIDEP. Près de 4 milliards de francs CFA ont été détournés d'un compte spécial de la SONIDEP. L'argent a pris la destination de la présidence en son temps. Pour le gouvernement nigérien, c'est une affaire de trop. Tanja est devenu encombrant pour la junte militaire depuis que la CEDEAO, sur une plainte de sa famille, a demandé sa relaxe pure et simple en l'absence de tout chef d'accusation. La suite est connue de tous. La Cour d'État lève son immunité. Aujourd'hui, il est rattrapé par l'histoire. Il croupit à la prison civile de Kolo dans un bâtiment administratif aménagé pour la circonstance avec comme seule dotation un matelas neuf et un canapé. Moussa Kaka, Niamey RFI.
Antoine de Léaucourt et Vincent Delory seront inhumés aujourd'hui à Lincelles, la petite commune du nord de la France dont ils étaient originaires. Le président Nicolas Sarkozy sera présent pour les obsèques de ces deux jeunes Français dont l'enlèvement vendredi dernier à Niamey s'est terminé dans un bain de sang. C'est officiel, Marine Le Pen a pris la tête du Front National, le parti de l'extrême droite française. Elle succède à son père, Jean-Marie. Aussitôt, elle a lancé sa campagne pour la présidentielle de 2012 face aux militants. Dans son discours, Marine Le Pen a fustigé la mondialisation et s'est posée en défenseur d'un État fort, républicain, mais aussi laïque.
Dans notre pays, qui a été meurtri par des guerres de religion multiséculaires, aucun culte ne doit empiéter sur la sphère publique. La foi doit rester une affaire strictement privée et son expression ne doit faire l'objet d'aucune provocation. Il faut censurer, sanctionner toutes les atteintes à la loi de 1905, s'agissant par exemple de la participation publique, directe ou indirecte, à la construction de mosquées. Il doit interdire l'aménagement d'horaires particuliers dans les piscines pour les femmes musulmanes, ou l'introduction d'interdits alimentaires religieux dans les cantines scolaires. Personne ne doit être conduit contre son gré ou à son insu à manger halal.
Marine Le Pen, propos recueillis hier par Guillaume Nodin.
Le journal de Nicolas Sûr.
Édition spéciale sur RFI.
Sébastien Gédor, Christophe Boisbouvier.
Ben Ali et après, un dictateur est tombé en Tunisie et tout reste à inventer. On a entendu il y a quelques minutes la difficulté à élaborer un gouvernement d'union nationale. À qui va profiter cette parole libérée? Les islamistes notamment étaient totalement muselés sous Ben Ali qui se servait d'eux comme d'un repoussoir pour justifier une répression tous azimuts. Que représentent les islamistes aujourd'hui? À quoi ressemble cette mouvance? Profil turc, c'est-à-dire réformateur ou tendance salafiste? Avec nous toujours Vincent Gesser, chargé de recherche au CNRS. Auteur d'un livre que vous qualifiez de prémonitoire tout à l'heure, Vincent Gesser, effectivement, dictateur en sursis. Hussein Jaziri est à vos côtés, Hussein Jaziri du parti islamiste Ennahda, qui était interdit sous Ben Ali. Bonjour.
Bonjour.
Et au téléphone de Tunis, Mahmoud Ben Romdan, membre du secrétariat du mouvement Etadjid, l'ex-parti communiste, mouvement d'opposition légale. Bonjour Mahmoud Ben Romdan.
Bonjour.
Première question à vous, Hussein Jaziri. Le chef de file de votre mouvement, Ennahda, Rached Ranouchi, a annoncé son retour d'exil puisqu'il était réfugié à Londres. Quel rôle est-ce que vous comptez jouer dans les jours qui viennent en Tunisie, votre parti, Ennahda?
Oui, tout d'abord, ce qui s'est passé en Tunisie, c'est une révolution. C'est quelque chose d'extraordinaire pour nous, les Tunisiens. Je suis très content de mon peuple qui a soulevé vraiment un défi extraordinaire, je le répète. C'est tout à fait normal qu'on rentre en Tunisie pour construire notre pays, un pays pour tous les Tunisiens. Et c'est le premier fruit, je crois, de cette révolution qui est la Tunisie pour tous. Pas d'exclusion, c'est pas une bande qui était de Ben Ali ou des dictateurs ou d'un parti ou je ne sais ou d'une personne ou d'une élite, c'est toute la Tunisie.
Alors mais vous, votre parti, Hussein Jaziri, est-ce que Ennahda va pouvoir participer au gouvernement d'Union nationale?
Non, c'est pas l'ordre du jour aujourd'hui.
Vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas?
La situation, c'est pas aujourd'hui l'enjeu d'un parti politique comme le nôtre, mais l'enjeu comment passer de cette révolution pour reconstruire une situation politique dans notre pays, une situation, il faut être rationnel, réel, et n'est pas cherché aujourd'hui comme si le problème, la place des islamistes ou d'Ennahda ou d'un parti, c'est tout d'abord respecter la volonté de cette révolution, c'est-à-dire la démocratie, d'abord.
Mais très concrètement, Hussein Jaziri, votre parti, malgré ses multiples demandes, n'a jamais été légalisé. Votre chef, Rached Ghannouchi, vit en exil à Londres. Est-ce que vous allez demander la légalisation d'Ennahda?
C'est un résultat logique qu'un parti comme le nôtre soit légal, sinon on n'a rien fait, sinon l'ancien régime est encore là. C'est tout à fait normal que notre leader Rachid Ghannouchi ou moi-même, qui a 21 ans aujourd'hui en exil, que je retourne dans mon pays et ma place d'être dans mon pays.
Il rentre quand, Rachid Ghannouchi?
C'est pas aussi un agenda de Rachid Ghannouchi qu'il rentre en Tunisie aujourd'hui ou demain. On est en train de voir avec tous les partis en place. On est en train, il faut dire tout d'abord, la priorité, c'est comment passer de la révolution à une situation pour barrer la route devant surtout l'ancien régime ou quelques-uns qui veulent toujours exister malgré le départ de despotes et de dictateurs.
Alors, au téléphone de Tunis, je le disais, Mahmoud Ben Romdane, vous êtes membre du secrétariat du mouvement État Djid. Est-ce qu'il faut légaliser le parti islamiste Ennahda en Tunisie, d'après vous?
La Tunisie appartient à tous les Tunisiens. Et donc, tous ceux qui ont la volonté de construire un parti politique doivent avoir la capacité de le réaliser. Mais je voudrais quand même, après l'affirmation de ce principe qui vaut pour tous, j'ai quelques interrogations à émettre sur les pratiques d'Ennahda. Je crois qu'ils ont été les victimes principales de l'ancien régime, mais qu'ils ont également contribué à ce que, en Tunisie, la fermeture politique soit facilitée. J'ai, avec les Tunisiens, de nombreuses questions à leur poser, parce que tantôt ils prennent des engagements, tantôt ils les renient, au gré des rapports de force supposés.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut donner un exemple.
Oui, je peux vous en donner de très nombreux. Tantôt, ils considèrent et ils reconnaissent que le code de statut personnel est légitime. Tantôt, quand ils sont, par exemple, en Algérie, au moment où le fils était prêt de prendre le pouvoir, et il le renie. Il déclare qu'il respecte les institutions républicaines, mais il infiltre les systèmes sécuritaires.
Alors, Houssine Djaziri, puisque vous êtes interpellé, je rappelle que vous êtes membre du parti islamiste Ennahda et vous allez essayer, en tout cas, de revenir en Tunisie. Mahmoud Ben Romdane vous interpelle sur vos contradictions. Est-ce qu'il y a un double langage d'Ennahda?
Écoutez, moi, aujourd'hui, je suis pas vraiment très chaud pour faire des discussions entre des petits partis comme ça ou chercher un peu dans l'histoire. Mais j'ai pas envie de dire qu'il y a des gens qui étaient vraiment, qui ont fondé, on va dire, entre guillemets, la dictature avec Ben Ali. Et monsieur, il sait très bien qu'il était complice avec ses pouvoirs. Nous, on est maintenant...
Ça veut dire les opposants de l'intérieur, pour vous, ils étaient tous complices, quoi.
Non, on n'a pas dit ça. Mais nous, les Tunisiens, on était le mouvement Ennahda, qui, comme il a dit, la principe victime de ce pouvoir, mais sur nos idées, ils savent très bien, on travaille maintenant plus que 20 ans avec toute l'opposition tunisienne sur la base d'une société civile pour instaurer une démocratie. Et cette histoire d'Algérie, vraiment, c'est bizarre, parce que de 1981, Rachid Ghannouchi, il a dit, si le mouvement communiste, qui est Tejdid aujourd'hui, si le mouvement communiste a été élu par le peuple, nous respectons, la volonté de notre peuple.
Vincent Gessert, est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots cette polémique sur le code du statut personnel?
C'est une polémique très importante. Vous savez que la Tunisie a adopté un code qui était très en avance, et pour dire très en avance, qui était même plus qu'en avance, qui avait 50 ans d'avance sur la plupart des pays. C'était l'abolition de la polygamie, l'instauration du mariage civil, du divorce civil, et qui est un code qui aujourd'hui a fait référence, puisque aujourd'hui la plupart des pays arabes qui veulent réformer s'inspirent du code tunisien. Bon.
Donc c'est notamment la liberté de la femme.
Et c'est l'égalité. L'égalité d'abord. L'égalité d'entre hommes et femmes. Et je pense que je réfléchissais, parce que politologue que je suis aussi passionné, j'ai une empathie pour ce pays qu'est la Tunisie. Et la question, je ne sais pas si je peux poser une question à Mahmoud Ben Robdan et à Hossein Jaziri. Est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à une formule de constitutionnaliser le code du statut personnel tunisien, c'est-à-dire en faire un des éléments de la constitution, future constitution tunisienne, ce qui permettrait effectivement de répondre à vos inquiétudes qui de peur que les islamistes le remettent en cause. Bon, il faut savoir que Rached Ranouchi s'est prononcé pour le code du statut personnel, c'est-à-dire que aujourd'hui les islamistes disent officiellement qu'ils reconnaissent ce code du statut personnel, ils le disaient déjà il y a un certain nombre d'années. Est-ce qu'il ne faudrait pas franchir le pas de la constitutionnalisation au moins d'un certain nombre de principes de ce code de statut personnel? Je pose la question à Hossein Jaziri et bien sûr à Mahmoud Ben Romdan.
Alors Mahmoud Ben Romdan d'abord va vous répondre.
Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Mais tel n'était pas le débat que vous avez enclenché. J'ai parlé des contradictions et Roland Jesser est bien placé.
Vincent Jesser
est bien placé pour savoir que El Nahda s'est engagé sur un certain nombre de choses. Le respect de la légalité républicaine, le respect donc du code de statut personnel, l'obligation de ne pas instrumentaliser la religion à des fins politiques. Et Roland Jesser...
Vincent, excusez-moi.
Excusez-moi, je termine. Est vraiment la personne idoine pour ce débat, parce qu'il a bien rendu compte de la tentative d'un complot que El Nahda a réalisé, était sur le point de réaliser en 1987. Et je termine. El Nahda a été l'objet de procès inéquitables. Mais aujourd'hui que nous sommes dans le cadre d'une transition démocratique, on peut également leur poser des questions.
Alors justement, puisque les questions de Vincent Jesser s'adressaient aussi à Hossein Jaziri, est-ce que vous prenez l'engagement ce matin sur le statut personnel, sur les droits de la femme, etc., que tout le monde reconnaît comme des avancées en Tunisie et que pas grand monde aujourd'hui ne voudrait qu'il y ait un recul sur ces questions?
Écoutez, notre mouvement, certes, Monsieur Bramvan, il sait très bien que nous avons signé des textes, ça fait maintenant plus 5 ans, même avec, on l'appelait notre voie vers la démocratie, dans les collectifs des 18 octobre, et surtout pour respecter le code de la femme en Tunisie.
Donc pour vous, débat est déjà tranché?
Oui, le débat est déjà tranché, et à mon avis, ça c'est vraiment des choses qui évite la vraie problématique aujourd'hui, c'est la transition politique.
Mais la proposition de Vincent Jesser, c'est-à-dire de faire entrer dans la Constitution le code du statut personnel.
C'est ce qu'on demande aujourd'hui, que ça soit une Constitution. Il faut revoir cette Constitution et rentrer dans une négociation avec tous les partis. On accepte, c'est clair, les acquis de la femme, les libertés des femmes, le respect aujourd'hui de la femme tunisienne en Tunisie, que ça soit pour la participation politique, que ça soit pour les libertés individuelles de la femme, que ça soit pour le travail, que ça soit pour quoi que notre mouvement est bien placé pour être un garant en Tunisie, pour qu'il n'y ait pas des dérapages d'extrémisme, que ça soit des quelques-uns de gauche ou de droite. On est un parti modéré, on cherche toujours le juste milieu, on fait très attention, on n'a jamais demandé, on ne demandera pas au moins, en tout cas, on n'a jamais demandé, la charia ou quoi que ce soit dans ce pays.
Ou l'obligation du voile, par exemple.
C'est des libertés, on est dans un monde oriental. Il faut comprendre que l'Orient a ses habitudes. On ne va pas dire à une femme qui met le voile, non, vous n'avez pas le droit. Ou une femme qui s'habille sans voile, non, vous êtes obligé de mettre cette voile. Non, ça c'est très très grave. En tout cas, nous, on a toujours opté pour une liberté de la femme où on respecte cette femme sans instrumentaliser aussi des débats idéologiques, quoi que ce soit.
Vincent Jesser.
Bon, je crois qu'il faut relativiser déjà le poids des islamistes en tant que force politique, qui est aujourd'hui quand même très très réduite, je dirais. Le parti Ennahda est très affaibli pour des tas de raisons historiques. Je ne suis pas en train de dire que vous n'existez pas, mais bon. D'autre part, je voudrais dire que, et là je rends hommage aux travaux d'un de mes collègues qui s'appelle Eric Gob, qui est rédacteur en chef de l'Année du Maghreb, Ranouchi a pour modèle l'AKP turc. Voilà, ça il faut le dire. Rachid est très imprégné de ce modèle. C'est son rêve. Et pour lui, il vante le pragmatisme de l'AKP.
C'est-à-dire le parti actuellement au pouvoir en Turquie.
En Turquie, tout à fait, qu'on appelle les islamistes au pouvoir en Turquie. Et c'est-à-dire qu'il faut quand même. Je comprends peut-être les inquiétudes, les doutes de Mahmoud Ben Romdan, sur l'engagement des islamistes. Mais il faut aussi voir l'évolution des islamistes ces 20 dernières années. Et je pense que les islamistes tunisiens qui prennent comme modèle l'AKP, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont plutôt dans une démarche pragmatique, libérale et de conciliation. Et je ne suis pas sûr que les islamistes qui poseront problème à la Tunisie sont les islamistes de M. Ranouchi. Il y aura peut-être d'autres islamistes qui émergeront, qui du coup vous poseront problème à vous également. C'est pour ça que je pense que M. Ranouchi peut rentrer dans le compromis politique, mais ça ne veut pas dire que d'autres partis islamistes accepteront ce compromis politique. Donc je me demande si quelque part, excusez-moi, c'est pas pour dire, mais M. Ranouchi appartient encore à une équation politique relativement bien rodée de discussion avec les autres forces politiques.
Le danger, c'est les partis.
Est-ce que ce sont les islamistes qui seront les véritables interlocuteurs du peuple tunisien? C'est ça le problème. Tout comme on peut dire que l'opposition a un déficit de représentativité, elle n'a pas pu travailler politiquement.
Parce qu'elle a été interdite.
Oui. C'est vrai aussi pour les islamistes. On ne sait pas ce qu'ils représentent aujourd'hui en Tunisie.
Mahmoud Ben Romdan, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Vincent Gesser? Est-ce que vous pensez qu'Ennahda reste le principal parti islamiste ou est-ce qu'il y a d'autres partis derrière qui sont peut-être plus radicaux et plus dangereux pour vous?
De ma connaissance de la scène politique tunisienne aujourd'hui, je ne connais pas d'expression radicale si ce n'est potentiellement armée. Elle a eu son temps, il y a à peu près 2 ans. Elle a été, comment dirais-je, démantelée. Comme expression politique, je ne connais pas. Je ne connais
comme que expression, des expressions... Comme expression politique, mais comme mouvement qui pourrait recruter ?
...que celle de M. Ranouchi. Bon, mais je suis heureux d'entendre, de la part du représentant du mouvement Ennahda, que le mouvement Ennahda est prêt à ce que le code de statut personnel, la pleine égalité entre hommes et femmes, soit inscrite dans la Constitution. Cette déclaration est pour nous essentielle et nous la considérons comme étant positive.
Est-ce que concrètement, Etajdid est prêt à discuter avec Ennahda dans une structure à venir?
Bien sûr. Etajdid est une composante de la société, bien évidemment, Etajdid discutera avec tout le monde. Mais Etajdid, en même temps, choisira ses alliés. Ennahda n'est pas notre allié, parce que son projet de société est radicalement différent du nôtre. Ennahda est en train de faire des avancées vers la démocratie. Cette affirmation aujourd'hui est bonne à enregistrer. Nous espérons que d'autres pas seront accomplis pour que, effectivement, Ennahda soit un parti qui ne fasse pas peur aux Tunisiens et avec lequel on peut dialoguer et construire ensemble la Tunisie démocratique de demain. Nous n'avons aucune position de principe. C'est uniquement de l'observation des pratiques d'Ennahda que nous avons des méfiances.
Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là, Houssine Djaziri du parti islamiste Ennahda, je le rappelle, qui était interdit sous Ben Ali, par rapport à ce que vous nous disiez il y a quelques minutes, on vous tend la perche, il y a des offres de dialogue, mais vous dites nous ne voulons pas rentrer dans le gouvernement d'Union nationale. C'est paradoxal, non?
Tout d'abord, si on revient vers le peuple, comme ça, on va dire directement, quel parti le plus populaire? Qui le peuple a peur de qui? Est-ce que d'un mouvement ex-communiste connu par ses positions envers surtout le problème culturel en Tunisie et comment résoudre le problème politique religieux dans ce pays qui est très très compliqué? Ou bien est-ce que c'est le mouvement Ennahda qui n'est pas accepté par le peuple? On va pas chercher ça parce que nous on fait attention. On va pas revenir au esprit populisme pour faire peur ou diaboliser l'existence.
Mais néanmoins il y aura des élections et il faut bien les préparer. Participer à un gouvernement d'Union nationale, ça peut permettre de les préparer aussi ces élections.
Oui, bien sûr.
Pourquoi rester en dehors?
Nous aujourd'hui déjà on nous a pas consultés pour ce gouvernement. C'est déjà fait derrière. Avec l'ancien régime, Et nous, aujourd'hui, bien sûr, nous voudrions bien d'être une composante comme les autres composantes. Nous voudrions pas que ce parti, l'islam politique aujourd'hui au Nada, devienne un parti qui fait peur ou qui voudrait, comme si c'est un danger pour les pouvoirs. Les pouvoirs, c'est pas notre objectif. Nous voudrions participer pour construire une situation, une plateforme pour que la démocratie soit une réalité en Tunisie.
S'il y a des élections dans 2 mois, vous y participerez ou bien vous les boycotterez?
Non, on verra comment les choses, c'est pas trop clair maintenant. La révolution n'a pas dit son dernier mot. Et nous, bien sûr, nous voudrions participer et nous voudrions être un parti comme les autres partis. Nous voudrions pas aussi dominer la vie politique, mais on n'est pas considéré pour tout ce qui est présidentiel, on est considéré par tout ce qui est législatif dans ce pays.
C'est-à-dire que Rached Ghannouchi ne sera pas candidat à la présidentielle?
Pas du tout, c'est pas notre objectif aujourd'hui.
Conclusion de Vincent Gesser.
Les islamistes tunisiens ont appris à organiser leur non-hégémonie. Ils savent très bien que s'ils sont hégémoniques, ils vont faire peur et qui donc ils vont être d'autant plus persécutés. Donc je pense que un peu sur le modèle marocain cette fois, s'ils arrivaient à être très populaires, ils seraient capables eux-mêmes de casser un peu cette popularité pour ne pas faire peur. Et ça, je crois que c'est une donnée nouvelle de l'islamisme tunisien. C'est surtout ne pas focaliser. Ils veulent se faire un peu oublier tout en rentrant en Tunisie. Voilà. C'est parce que je crois qu'ils ont tout à fait conscience qu'ils peuvent polariser l'attention des Américains, l'attention des observateurs internationaux et l'attention des partenaires tunisiens, notamment de la gauche tunisienne, et qu'ils préfèrent être un parti comme les autres dans le cadre d'une coalition. Je pense que c'est un peu leur rêve et je crois pas me tromper en me disant que ils veulent se faire discrets.
Merci Vincent Gesser, merci également à Houssine Jaziri d'avoir été avec nous ce matin du parti islamiste Ennahda qui était donc interdit et merci également à Mahmoud Ben Romdan.